Donc cet après-midi, nous continuons dans le livre de l'Exode. La dernière fois, nous avions vu les consignes concernant la célébration de la Pâque. Et aujourd'hui, nous allons voir certaines prescriptions concernant la Pâque et nous allons voir ce qui s'en dégage. Exode 12, verset 43. À 51. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron, « Voici la prescription au sujet de la Pâque. Aucun étranger n'en mangera. Tu circoncideras tout esclave à qui est pris d'argent, alors il en mangera. Le résident temporaire et le mercenaire n'en mangeront pas. On la mangera dans la maison même. Vous n'emporterez pas de chair hors de la maison et vous ne briserez aucun os. » Toute la communauté d'Israël célébrera la Pâque. Si un immigrant en séjour chez toi veut célébrer la Pâque en l'honneur de l'Éternel, tout mâle chez lui devra être circoncis. Alors il s'approchera pour la célébrer et il sera comme l'Autochtone, mais aucun incirconcis n'en mangera. Il y aura une même loi pour l'Autochtone et pour l'immigrant en séjour au milieu de vous. Tous les Israélites feraient exactement ce que l'Éternel avait ordonné à Moïse et à Aaron. Ce jour précis, l'Éternel fit sortir du pays d'Égypte les Israélites en troupes organisées. Que le Seigneur puisse bénir sa parole en nous. Prions. Seigneur notre Dieu, encore une fois, nous voulons vraiment nous exposer à ton enseignement, à ta parole qui est tellement une bénédiction pour nos âmes, un guide dans notre chemin. Nous avons besoin, Seigneur, que notre intelligence soit renouvelée. Nous avons besoin que ton esprit applique ta parole à nos cœurs et nous donne de la mettre en pratique. Bénis ta parole en nous, Seigneur Dieu. Amen. Alors, si vous remarquez bien, pour manger de la Pâque, il y a des exigences, il y a des consignes, et ce n'est pas quiconque veut qui peut. Vous savez certainement, vous avez certainement constaté que dans la Bible, l'idée de prendre un repas avec d'autres, ce n'est pas banal. C'est un signe de communion. C'est un signe de désir de communion. C'est derrière le partage de la nourriture, il y a pratiquement le partage de nos vies. Nous sommes dans une société où on voudrait que tout le monde accueille tout le monde, au sens pratiquement d'approuver. Et vous avez certainement déjà soit organisé une fête ou assisté à une fête, et à un moment donné, un invité appelle celui qui organise et dit, j'ai mon beau-frère qui est seul, est-ce que je pourrais l'amener? Et souvent, la réponse, c'est oui. Mais ici, on voit que c'est plutôt l'inverse. Si telle personne ne répond pas à tel critère, il n'en mangera pas. Si un autre ne répond pas à tel critère, non, il n'est pas bienvenu. Il doit se soumettre à des choses avant. Le premier point que j'aimerais faire ressortir, c'est l'idée de la distinction. Il y a une distinction, une séparation entre le peuple de Dieu et les autres. Aucun étranger n'en mange. Et ça semble difficile à une époque où les hommes sont inclusifs, où la pensée populaire veut qu'on n'ait personne à part. Pour montrer un bel accueil, on invite tout le monde à participer. Il ne faut pas que les gens se sentent rejetés. Ce n'est pas la pensée biblique. Oui, il y a une invitation, mais jamais une invitation à participer si le statut n'est pas là. Il y a une invitation à entrer dans ce statut d'abord. Autrement dit, une invitation à se convertir avant de jouer des privilèges. C'est comme le mariage. il faut être marié avant de goûter au privilège du mariage. Quand je me suis converti, dans l'Église catholique et j'avais visité plusieurs églises protestantes. Et l'une d'elles, c'est une église des frères, mais ce qu'on appelle les frères étroits. Donc, les femmes portent le voile et c'est très, très étroit comme pensée. Et vous allez voir, il y avait un cordon de séparation entre les 4-5 premières rangées ou dernières rangées de bains et les autres bains. Et on m'a invité à prendre un bain à l'arrière. Et je voyais tous les gens venir s'asseoir devant. Et quand le plateau de Sainte-Sainte est arrivé, eh bien, il n'a pas dépassé le cordon. Il y avait une séparation. Heureusement, ils sont conséquents, le plateau d'offrande n'a pas traversé aussi. Et je vais vous dire une chose, ça m'a édifié. Loin de sentir du rejet, je me suis dit, enfin, une Église qui prend ça au sérieux. On ne banalise pas. On ne fait pas à croire à une pseudo-communion au sens plein du mot communion. On ne fait pas à croire à une pseudo-communion juste pour dire on est gentil. J'ai été très édifié. Le Seigneur dit à son peuple, aucun étranger n'en mangera. Le résident temporaire et le mercenaire n'en mangeront pas. Aucun incirconcis n'en mangera. Autrement dit, si ces personnes-là sont présentes, on leur dit, c'est pas pour vous. Vous n'y touchez pas. La circoncision était exigée. Et on découvre dans ce texte-là que le Juif n'a pas de privilège particulier. Verset 44, « Tu circoncieras tout esclave acquis à prix d'argent, alors il en mangera. » Et verset 48, « Si un immigrant en séjour chez toi veut célébrer la Pâque en l'honneur de l'Éternel, tout mâle chez lui devra être circoncis. Alors il s'approchera pour célébrer et il sera comme l'Autochtone. » Mais aucun incirconcis n'en mangera. Quand je dis qu'il n'y a aucun privilège particulier, c'est que si l'Autochtone, si l'immigrant s'il se soumet aux mêmes consignes, il a les mêmes privilèges. L'immigrant a droit aux mêmes privilèges que le Juif. Il n'a qu'à se soumettre aux mêmes consignes. Verset 49. Il y aura une même loi pour l'Autochtone et pour l'immigrant en séjour au milieu de vous. C'est la même loi, les mêmes exigences. Donc, ce qu'on découvre ici, c'est que la condition pour célébrer la Pâque n'était pas d'être juif, c'était d'être circoncis. Et c'était ouvert, c'était accessible aux non-juifs. Et par la circoncision, l'immigrant, comme le juif, embrassait les promesses de Yahvé. Il reconnaissait que Yahvé était le Dieu créateur sur tout l'univers, le seul vrai Dieu. La seule différence entre l'étranger du verset 43, pour lequel le Seigneur dit qu'il ne pourra pas manger la Pâque, et l'immigrant du verset 48, pour lequel le Seigneur dit qu'il pourra en manger s'il se fait circoncis, c'est que l'immigrant décide de s'établir. Il décide de faire partie du peuple de Dieu avec tout ce que ça comporte. Il n'est pas de passage de dire « moi je suis ici pour 2-3 semaines ». Il décide de s'établir et de devenir membre du peuple de Dieu. Il s'identifie à Yahvé. Nous savons que la circoncision chez les Juifs était la façon par laquelle on devenait membre du peuple et que l'on s'identifiait toutes les promesses. Chez le chrétien, c'est le baptême qui... C'est par le baptême que nous en témoignons. Et quand on prend le repas du Seigneur, je mentionne à chaque fois que pour participer, il faut avoir témoigné de sa foi dans les eaux du baptême. On va tourner dans Acte 2, versets 41 et 42. Il n'y a pas de verset qui dit « Pour participer au repas du Seigneur, il faut être baptisé. » Mais la Bible ne s'exprime pas comme cela. C'est très rare que la Bible donne une consigne aussi nette. Il faut dégager la théologie de l'ensemble de ce qu'il dit. Acte 2, versets 41 et 42. « Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. » Donc, on voit ici que la conversion précède le baptême. Et en ce jour-là, furent ajoutés environ 3 000 âmes. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, la communion fraternelle, la fraction du pain et dans les prières. Ceux qui persévèrent dans la vie communautaire, ceux qui prennent part à la vie communautaire, incluant la fraction du pain, qui est une expression pour parler du repas du Seigneur, c'est ceux qui se sont convertis, qui ont accepté ou reçu la parole. Le verbe « recevoir » est plus conforme à l'original. Et qui ont été baptisés. Maintenant, un autre texte, 1 Pierre 3:21. C'était une figure du baptême, il parle du déluge. C'était une figure du baptême qui vous sauve à présent et par lequel on ne se débarrasse pas de la souillure de la chair, mais qui est la demande adressée à Dieu d'une bonne conscience. Dans la Bible, ce n'est pas le baptême qui sauve. Il faut faire attention à ce qu'il dit au verset donc 1 Pierre 3:21. C'est une figure du baptême qui vous sauve. Okay? Il y a eu des personnes qui ont été sauvées avant qu'il y ait le baptême. Que le baptême soit institué. Le larron gracié n'a pas été baptisé. Et pourtant, le Seigneur lui dit qu'aujourd'hui même, il sera vêtu dans le paradis. Le baptême, il y a un seul baptême, c'est le baptême du Saint-Esprit. Et on témoigne du baptême du Saint-Esprit par le baptême d'eau. Mais ultimement, ça forme un. L'un est le témoignage d'une réalité qui est nôtre. Maintenant, en quoi est-ce que les eaux du déluge ont sauvé Noé? Noé, s'il n'y avait pas eu le déluge, ne serait pas décédé. Il est pas, bon, il a été sauvé du déluge, mais comment le déluge peut être un moyen de salut? La question, donc, la réponse plutôt, c'est que les eaux du déluge ont détruit l'humanité méchante. Noé a été sauvé du monde de la corruption. Dieu a mis fin, de manière préfigurative, à l'humanité méchante. Genèse 6, Dieu vit que le corps de l'homme ne concevait que de mauvaises pensées. Et donc, par le déluge, Dieu sauve Noé de ce monde de méchants. Autrement dit, les eaux ont purifié la création. Et le baptême du Saint-Esprit agit de la même façon pour nous. Et comme le déluge a marqué clairement une séparation entre Noé, donc la nouvelle humanité, et on est encore dans un monde de préfiguration, hein? Donc une séparation entre la nouvelle humanité et l'ancienne, eh bien, c'est ce que le baptême fait pour nous. Et il y a une séparation. Pierre indique clairement qu'on ne se débarrasse pas de la souillure de la chair par le baptême, et que le baptême est plutôt la demande d'une bonne conscience envers Dieu. contrairement à la circoncision qui pouvait être décidée et qui était la plupart du temps décidée par le père de famille, le baptême est une décision prise par la personne elle-même. C'est un engagement de la personne. Et celui qui n'est pas prêt à s'identifier au Christ par le baptême, pourquoi voudrait-il s'identifier au Christ dans le repas du Seigneur? Celui qui n'est pas prêt à demander à Dieu une bonne conscience, mais le demander selon ce que Dieu a prescrit. On ne peut pas dire, moi j'ai demandé à Dieu une bonne conscience, mais pas par le baptême. J'ai fait ça seul, spirituellement, dans ma chambre. Ce n'est pas de cette façon-là que Dieu dit qu'on demande une bonne conscience. Ce n'est pas de cette façon-là qu'on prend l'engagement. C'est par le baptême. De la même façon que pour le peuple juif, c'était par la circoncision. Celui qui n'est pas prêt à demander une bonne conscience à Dieu par le baptême, pourquoi est-ce qu'il prendrait le repas du Seigneur et quelles peuvent être ses intentions pour vouloir participer? Je pense qu'il y a quelques raisons qu'on pourrait ressortir. Une de ces raisons, c'est que l'Église catholique présente le pain et le vin comme la substance du corps et du sang du Christ. Il y a quelque chose de sacramentaliste. Et on a peut-être été influencé par cette doctrine. Et il y a des gens qui pensent que s'ils prennent le repas du Seigneur, ils vont avoir quelque chose de plus dans leur vie chrétienne, même s'ils ne sont pas baptisés, même si c'est désordonné. Et il n'y a aucune bénédiction à prendre le repas du Seigneur en dehors des consignes qu'il a données. Il n'y a aucune bénédiction. Paul dit dans 1 Corinthiens 11, 29, « Celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur, mange et boit un jugement contre lui-même. » Pour le non-croyant, il n'y a aucune bénédiction à prendre le repas du Seigneur. Il n'y a aucune bénédiction à vouloir participer à la vie spirituelle du peuple si lui-même n'est pas prêt à avoir une disposition telle que Dieu l'a prescrit. Le Seigneur dit au peuple juif, celui qui n'est pas circoncis ne mangera pas de la Pâque. Le résident temporaire et le mercenaire n'en mangeront pas. La seule possibilité d'en manger, c'est d'être identifié au peuple de Dieu. C'est de marquer dans notre vie la séparation d'avec le monde. Le verset 43 dit « Aucun étranger n'en mangera. » Pourquoi est-ce que l'étranger ne peut pas et que l'immigrant peut, comme j'ai mentionné? L'immigrant s'installe. Il veut faire partie définitivement, c'est un choix. Il n'est pas en touriste. Il a appelé le camp Panton, il a tous ses meubles avec lui, il s'en vient s'installer au sein du peuple juif. L'étranger, lui, non, ce n'est pas ce qu'il veut. Il ne veut pas s'identifier. Il veut garder son statut d'étranger. Et par ce statut, c'est lui qui dit, je ne suis pas des vôtres. Je demeure étranger. Et je ne veux pas faire partie de votre famille. Pourquoi manger avec vous? Son intention est de quitter. Il sait qu'il va quitter. Et c'est son désir. Dans l'Église, il y a des gens qui viennent temporairement. Et là, je ne parle pas de Philippe et Esther, qui vont retourner malheureusement, mais qui devraient revenir du voulant. Il y a des gens qui viennent dans une église et ils sont là de passage. Et là, je ne parle pas de gens qui décident de changer d'église pour des raisons qui leur appartiennent. Mais il y a des gens qui viennent, puis après 3, 6 mois, quittent pour dire non, ça ne m'intéresse pas. Le cœur n'est pas là, il n'y a pas d'engagement. Et c'est pas juste qu'il n'y a pas d'engagement vis-à-vis de l'Église. Il n'y a pas d'engagement d'abord vis-à-vis Dieu. Il n'y a pas d'intérêt pour Dieu. C'est une personne qui n'est pas convertie. Tournons dans 1 Jean 2, versets 18 et 19. 1 Jean 2. Jean 2, verset 18. Jeunes enfants, c'est l'heure dernière. Comme vous avez entendu qu'un antichrist venait, voici qu'il y a maintenant plusieurs antichrists. Par là, nous reconnaissons que c'est l'heure dernière. Ils sont sortis de chez nous, mais ils n'étaient pas des nôtres. Car s'ils avaient été des nôtres, ils seraient demeurés avec nous. Mais de la sorte, il est manifeste que tous ne sont pas des nôtres. Le verset 19 est très important pour la compréhension de ces personnes. Ils sont sortis de chez nous, mais ils n'étaient pas des nôtres. Autrement dit, le fait que ces personnes soient sorties de l'Église démontre qu'elles n'ont jamais appartenu. Ce n'est pas qu'elles n'appartiennent plus. Elles n'ont jamais été des nôtres. Et Jean continue. Si elles avaient été des nôtres, elles seraient demeurées. Mais de la sorte, il est manifeste que tous ne sont pas des nôtres. Et la conjugaison grecque, qui comporte des temps que nous n'avons pas en français, dit ceci. S'ils avaient été définitivement ou réellement des nôtres, ils seraient demeurés. Si le statut avait été là, ben, ils n'auraient pas quitté. Donc, ce qui se passe dans le présent indique non pas un changement de statut, mais confirme un statut qui était déjà là. Celui qui appartient vraiment à Dieu, il demeure. C'est pour ça que des étrangers, des gens de passage, on ne peut pas dire ils sont des nôtres pleinement. Et là, on s'entend, des gens de passage, donc des personnes qui viennent, mais il n'y a pas un intérêt profond, il n'y a pas d'engagement, il n'y a pas de désir profond. Je trouve toujours embêtant qu'une personne dise « je suis converti, ça fait 4, 5, 6, 8 ans et 10 ans » et que la personne ne soit pas baptisée. C'est un problème. C'est comme si les gens veulent vivre le concubinage sans se marier. C'est un problème. C'est pas biblique. La personne s'écoute elle-même au lieu d'écouter ce que l'Écriture dit. Bref, elle est son propre berger. Elle n'a pas besoin du berger parce qu'elle ne suit pas les commandements du berger. Elle n'écoute pas la voix du berger. Le verset 45 rajoute un interdit pour le mercenaire. Pourquoi le mercenaire? Parce qu'un mercenaire, c'est quelqu'un qui vise le salaire, le profit. Et Dieu dit, lui, il n'a pas sa place. Remarquez que pour le mercenaire, il ne dit pas, s'il se fait circoncire, il pourra. Mais bon, c'est un mercenaire. C'est quelqu'un qui recherche le profit. Il n'a pas sa place parmi le peuple de Dieu. Il est là par intérêt personnel. Il n'est pas là pour s'identifier au peuple de Dieu, mais pour retirer son profit. Il y a une semaine et quelques jours, j'étais à Pierrefonds il y a 3 semaines. J'étais au Nebraska. Et j'ai mangé avec David Vaughan. Et il me racontait qu'il y a un homme qui s'est pointé à leur église à Grenoble. Et c'est un homme qui venait régulièrement. Et après quelques présences, il a demandé de l'aide financière. Et il disait que, bon, j'ai une maladie, les médicaments coûtent cher, etc. Sauf qu'après un certain temps, l'Église a découvert qu'il faisait cela avec plusieurs organismes et qu'il en profitait pour aller dans les plus grands restaurants et ce, en louant une limousine. Le gars ne pouvait pas travailler. Il disait qu'il avait besoin d'argent. Il était là au culte. Mais son but était de soutirer de l'argent. Il y en a qui ne demanderont pas d'argent, mais qui fréquentent les églises pour se créer des réseaux d'affaires. Ils ont un produit à vendre, et là, évidemment, ils disent, ben, c'est pas impersonnel quand même, une église. C'est intéressant, donc je vais m'infiltrer. Mais c'est la même chose. Leur intérêt n'est pas la parole. Leur intérêt n'est pas la sanctification. Leur intérêt n'est pas Dieu. Leur intérêt, c'est lui. Vous remarquerez que ces personnes-là, souvent, vont manipuler. Ils vont dire, bien, vous êtes une église, vous êtes censé aider. Hein? Alors, c'est votre job de faire du bien, même financièrement. C'est votre job de signer un chèque. Hein? J'aimerais vous dire que, parfois, ne rien donner à quelqu'un, c'est vraiment l'aider. C'est vraiment l'aider. C'est de le mettre face aux conséquences de ses propres choix. Le mercenaire. Au verset 46, là, les consignes vont vers la Pâque elle-même. Les gens ne doivent pas célébrer la Pâque de n'importe quelle façon. La Pâque devrait être mangée dans la maison avec un interdit d'emporter la chair de l'agneau pascal hors de la maison. Et il y a la prescription de ne pas briser aucun os. Qu'est-ce que ça change? Eh bien, il y a des raisons pour cela. La chair de l'agneau pascal devait être traitée pour ce qu'elle signifie. La Pâque juive, c'est un repas d'alliance. La circoncision exigée en Hélène, la preuve. Au verset 10, on avait vu que l'agneau devait être mangé au complet, sans rien laisser. Et si jamais il en restait, il fallait brûler ce qui restait. Au verset 9, la viande devait être cuite complètement, non pas à demi. Et c'est le symbole d'une consécration totale. Ça indique que l'agneau devait être consacré totalement. Ce que le Christ a fait. Lui, l'agneau parfait. Il s'est consacré totalement. Le peuple de Dieu n'a pas le droit de banaliser les bénédictions. Il ne peut pas traiter de n'importe quelle façon ce que Dieu donne. Quand Paul enseigne sur le repas du Seigneur, il dit à ceux qui pensaient à leur ventre, « N'avez-vous pas des maisons pour manger et pour boire? » C'est intéressant parce que jeter de nourriture, s'il en reste un peu, s'il y en a trop, pas que ce soit un gros péché. Mais quand c'est la Pâque, c'est autre chose. Et il me semble qu'il y a un lien qui est intéressant. Ce n'est pas parce que des choses sont acceptables dans certains aspects que ça doit l'être en tout. Il y a quelqu'un qui m'avait déjà dit il y a plusieurs années, bon, moi, si un pasteur prêche en Bermuda, je ne suis pas très dérangé. Et la personne avait dit, si c'est acceptable devant Dieu, les Bermudas dans la semaine, pourquoi ça ne serait pas acceptable qu'un pasteur prêche en Bermuda? Et là, je lui ai dit, si on fait cette transposition-là, c'est problématique. C'est acceptable que je puisse prendre une bière le lundi à 5 heures sur le balcon, mais je ne verrais pas prendre une bière en prêchant. Comprenez? Ce n'est pas parce que quelque chose est acceptable dans le quotidien que c'est toujours acceptable. Il faut considérer qu'il y a des choses qui sont saintes au sens où qui doivent refléter aussi la sainteté. Le verset 46 continue avec la consigne de ne pas briser aucun os. Ici, nous avons l'amorce d'une prophétie. On va tourner dans Jean, chapitre 19. L'Évangile de Jean, chapitre 19. Verset 31 et suivant. Jean 19, 31. C'était le jour de la préparation, et pour ne pas laisser les corps en croix pendant le sabbat, or ce sabbat était un grand jour, les Juifs demandèrent à Pilate de le faire enlever après leur avoir brisé les jambes. Alors ici, c'est un texte qui se situe immédiatement après la crucifixion du Christ. Les soldats vinrent donc et brisèrent les jambes du premier, puis de l'autre qui avait été crucifié avec lui. Arrivés à Jésus et le voyant déjà mort, ils ne lui brisèrent pas les jambes. Mais un des soldats lui perça le côté avec une lance, et aussitôt il sortit de l'eau et du sang. Celui qui l'a vu en a rendu témoignage, et son témoignage est vrai, et lui, il sait qu'il dit vrai, afin que vous croyiez vous aussi. Cela est arrivé pour que l'Écriture soit accomplie. Aucun de ses os ne sera brisé. En plus de nous montrer ici que la Pâque juive est une préfiguration de la Pâque chrétienne et du repas du Seigneur, le fait que les os ne soient pas brisés évoque certaines réalités. Une mise en contexte, à l'époque, quand les soldats voulaient vérifier si la personne crucifiée était vraiment décédée, eh bien, il perçait le côté avec une lance. Et s'il y a du sang qui sortait, c'est parce que la personne n'était pas encore décédée. Alors, ce qu'il faisait, il cassait les jambes pour que la personne ne puisse plus se relever pour respirer. Parce qu'elle devait se relever pour respirer. C'est horrible. Eh bien, si, donc, finalement, on provoquait la mort comme ça. Et le soldat arrive à Jésus, il est déjà mort. Il brise, il perce le côté, il y a sa confirmation. Pourquoi c'est important? D'abord pour dire que la mort du Christ est bien attestée. Certains ont proposé que finalement, parce qu'on veut rejeter la résurrection, on dit, bien, il est peut-être tombé dans un coma. Un simple coma. Désolé. Il n'y avait plus de sang qui coulait que de l'eau. Le Seigneur n'a pas fait semblant de mourir. Il n'a pas fait semblant de porter le châtiment et les conséquences, qui est la mort. Il l'a porté, il l'a traversé. Deuxièmement, c'est son agonie a été jusqu'au bout. On n'a pas écourté son agonie, comme ce fut le cas pour les deux autres. Il est allé jusqu'au bout dans l'agonie. Une souffrance jusqu'à la fin. Même physiquement, autant que spirituellement, le Christ a donné tout ce qu'il y avait. Il a porté nos péchés jusqu'au bout. Il ne peut pas y avoir de célébration de Pâques sans une mort bien attestée. La Pâque, c'est la célébration de la vie. Une vie donnée, une vie livrée en sacrifice. Ce texte d'Exode nous donne énormément d'applications pour pour nous. Nous n'en verrons que quelques-uns. Nous devons considérer la sainteté du peuple de Dieu, la séparation. Nous ne devons jamais regarder l'Église comme une institution humaine. On parle souvent de telle Église a été fondée par telle personne. Et on comprend le langage. Mais on doit savoir que si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. C'est Dieu qui fonde, pas l'Église spirituelle uniquement, les Églises locales. C'est Dieu qui les désire, c'est Dieu qui appelle des ouvriers, c'est Dieu qui les fonde derrière ses serviteurs. C'est Dieu qui est à l'œuvre. Le jour où vous penserez que c'est une institution humaine, toute votre perception va changer sur l'Église. C'est comme si je me mets à penser que le mariage est une institution humaine. Bref, on peut en faire ce que l'on veut. C'est tout mon quotidien qui sera déterminé, qui va changer. Et quand je considère que c'est une institution divine, et que si je suis fidèle à ma femme, c'est d'abord parce que je vais être fidèle à Dieu, parce que c'est Dieu qui me demande d'être fidèle à ma femme. L'Église, c'est la même chose. Nous devons nous voir, nous, comme famille, comme une institution divine, appelée par Dieu. C'est le sens du mot Église. Ecclésia. Ecclésia, c'est le verbe kaléo. Et ec, ordre. Nous sommes des appelés ordre. C'est pour ça que l'Église, c'est d'abord les croyants, c'est pas le bâtiment. C'est pas les lettres patentes. C'est nous. Quand le Seigneur va revenir, les bâtiments et les lettres patentes, ça va brûler. Mais l'Église sera enlevée. Les bâtiments restent ici. L'Église sera enlevée. C'est nous. Nous sommes des appelés hors d'eux. C'est la séparation, la distinction. Et c'est ce que la Pâque juive annonçait. Le peuple juif a été appelé hors d'Égypte. Nous sommes appelés hors du monde. Nous sommes sortis du monde. Il ne fallait pas qu'il y ait de communion entre le monde et l'Église. Ça ne marche pas. Ça nous appelle à garder l'Église pure. Non pas que nos vies sont constamment purs. On le sait. Mais la façon de garder la pureté, c'est de, oui, le combat. Et dans cela, il y a la confession des péchés et l'assurance du pardon. Reconnaître notre péché. Il n'y a pas de place pour considérer un non-croyant comme s'il était croyant. Il n'y a pas de place pour dire à un non-croyant ou à quelqu'un qui ne s'est pas identifié comme croyant, comme le Seigneur demande, de dire, « Oh, c'est pas grave. Viens-t'en. Participe avec nous. » Ce n'est pas notre Église, ce n'est pas notre repas. C'est l'Église de Jésus-Christ et c'est le repas du Seigneur. Ce n'est pas du rejet de notre part. C'est même rendre service à la personne. C'est de la mettre devant sa situation. Tu es séparé d'avec Dieu. Nous voulons t'accueillir, mais il ne peut pas y avoir une communion. Ce n'est pas du rejet si je dis à une autre femme que je ne suis pas intéressé. Ce n'est pas du rejet. C'est la mettre devant une réalité. Nous sommes une société distincte. Et sans pousser le parallèle trop loin, nous sommes certains que le projet que nous avons, que Dieu a pour nous, va se réaliser. Amen, Claude. Gloire à Dieu. Il y a une coupure, une séparation entre nous et des non-croyants. Quand on est devant d'autres personnes, là, quand on était en République, avant chaque repas, nous prions et il n'y a personne qui est venu vers nous. Vous avez prié, vous êtes chrétien. On sent qu'on est différent, on le sait. Nous sommes séparés du monde. Le prophète Ésaïe dit que c'est notre péché qui fait une séparation entre Dieu et nous. Vous connaissez, je pense que c'est au chapitre 55, je ne suis pas certain. C'est vos péchés qui mettent une séparation entre vous et moi. Maintenant, écoutez bien ce que l'Épître aux Hébreux dit sur le Christ. C'est bien un tel souverain sacrificateur qui nous convenait. Saint, innocent, immaculé, séparé des pécheurs et plus élevé que les cieux. Le Christ, puisqu'il n'a jamais péché, n'a jamais été séparé de Dieu, mais il était séparé des pécheurs. Et maintenant, le Christ nous transporte dans son statut. Romains 8, je vous invite à tourner. Romains 8, versets 29 et 30. Romains 8. Verset 29. Car ceux qui l'ont connu d'avance, le verbe connaître ici est à prendre au sens aimer, anaconuel, c'est au sens d'avoir une relation. Nous sommes aimés depuis l'éternité passée, Éphésiens 1. Car ceux qui l'ont connu d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblable à l'image de son Fils, afin qu'il soit le premier-né d'un grand nombre de frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Ici, Paul présente ce qu'on appelle la chaîne du salut. S'ils sont aimés depuis l'éternité passée, c'est sûr de façon certaine qu'ils vont se rendre à la glorification. C'est tellement certain que Paul utilise une conjugaison qu'on appelle l'aoriste. C'est un passé définitif. Ça. Et Paul continue au verset 31. Que dirons-nous donc à ce sujet? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a pas épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussitôt avec lui par sa grâce? Le salut éternel que Paul fait l'équation, si Dieu nous a livré son propre Fils, comment penser qu'il ne nous donnera pas le restant de ce qu'on a besoin pour notre vie chrétienne, pour persévérer? Et il le fait, il envoie son esprit. Il nous donne des moyens de grâce. Et Dieu ne sauve pas des personnes pour dire, ben, je vous laisse persévérer par vos propres forces. Bonne chance. Il va nous donner tout. De sorte que, de façon certaine, nous arriverons à la glorification. Verset 32. Comment ne nous donnera-t-il pas aussitôt avec lui? Et au verset 33, il continue. C'est le même raisonnement qui se poursuit. Qui accusera les élus de Dieu? Dieu est celui qui justifie. Qui les condamnera? Le Christ Jésus est celui qui est mort. Bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu. Il intercède pour nous. Qui nous séparera de l'amour du Christ? La tribulation, l'angoisse, la persécution ou la faim, ou le dénuement, ou le péril, ou l'épée? Nous étions séparés d'avec Dieu par notre péché. Le Christ vient, lui est séparé des pécheurs, jamais séparé de Dieu, et il nous prend de notre statut de séparé de Dieu. Il nous sauve et il dit plus. Maintenant, il n'y a plus personne qui va vous séparer de Dieu. Quelle bénédiction. Verset 36 et suivant. Selon qu'il est écrit, à cause de toi, on nous met à mort tout le jour, on nous considère comme des brebis qu'on égorge. Les non-croyants savent qu'ils sont séparés de nous, parce que la descendance du serpent s'en prend à la descendance de la femme. Ça fait 6000 ans que c'est commencé, ça va continuer jusqu'au retour. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car je suis persuadé que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni les êtres d'en haut, ni ceux d'en bas, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu en Christ Jésus, notre Seigneur. Nous sommes unis au Christ pour l'éternité. Sortis d'Égypte. On marque ça par la circoncision et par la Pâque, notre séparation. Et c'est pas séparé pour dire maintenant, vous êtes. C'est séparé pour être unis à Dieu, définitivement. Nous avons été séparés du monde péché, de notre vieille nature. Le Seigneur, lorsqu'il nous sauve, il nous sépare du monde. Parce qu'on voit le privilège. Nous étions esclaves, comme le peuple juif, esclaves du paganisme, esclaves de l'homme pécheur. Et Dieu, souverainement, il est venu nous délivrer. Il nous a sortis de ce que nous étions. Il nous a sortis de ce que nous étions. Pas juste du mal extérieur, de nous-mêmes. Il nous a sortis. Et il dit, maintenant, je te lave et tu unis à Dieu pour l'éternité. Ce n'est pas un petit salut. Comment échapperons-nous si nous négligeons un si grand salut? Nous appartenions à un monde corrompu, un monde qui s'écroule, un monde qui, à chaque seconde, marche vers l'enfer. Vous avez peut-être déjà vu des films où il y avait une force mentale qui faisait que tous les gens de la ville perdaient toute notion et marchaient comme des robots dans la même direction. Et on voyait que les gens sortaient des rues secondaires pour prendre un boulevard et tous les gens marchent. Vous avez déjà vu ça, un truc comme ça? C'est le monde actuel. Ils marchent vers l'enfer. Et ils sont convaincus qu'ils sont dans la bonne direction. Le Seigneur nous a sortis. Tu tournes à droite. Ton GPS te dit tu tournes à droite. Tu t'en vas vers Dieu. Voici ta nouvelle vie. Nous appartenons maintenant à un royaume inébranlable. Un royaume éternel et glorieux. Nous devons vivre cette séparation. Nous devons en être conscients. Voir cette réalité, que nous n'appartenons plus à ce monde de péché. Que le Seigneur bénisse sa parole.